7h47 minutes. Bon vendredi matin. Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Ève Harel, est avec nous en studio. Comment ça va, Jacinthe Ève?
Ça va bien, merci.
Courte nuit, un petit aller-retour à Montréal, mais pour tout un show au Centre Bell.
Oui, je suis allée voir Andrea Bocelli au Centre Bell hier soir. C'était extraordinaire.
Je le savais même pas qu'il était dans la province.
Ben oui.
Tout. Es-tu encore bien en forme?
La veille, il était à Toronto. Il est très, très en forme. C'était vraiment magistral, franchement, ben, pour ceux qui aiment Andrea Bocelli, bien sûr.
Oui.
Mais c'était vraiment de toute beauté.
De la grande visite au Québec, Bocelli à Montréal.
Oui.
Le premier ministre français, Gabriel Attal, ici à Québec.
Ben oui.
On va en jaser. D'ailleurs, qu'est-ce que tu surveilles, toi, Jacinthe Ève, par rapport à la visite hier et aujourd'hui du premier ministre français?
Bien là, aujourd'hui, on s'attend à avoir une belle présentation là, sur une déclaration commune sur la protection de la langue française aujourd'hui que Gabriel Attal va faire avec le premier ministre François Legault. Donc, on va surveiller ce que ça contient exactement, cette déclaration commune sur la protection de la langue française. Est-ce que le titre dit tout ou on va avoir des éléments de nuance à apporter? Donc, ça, c'est la chose à surveiller.
10h30 ce matin.
Exactement.
Question peut-être difficile à répondre. Je te lance pareil. Quel parti politique peut profiter le plus de la visite du premier ministre français?
Je vais vous surprendre. Quel parti peut en tirer le plus profit, c'est le Parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron et de Gabriel
Attal. Ah oui, c'est celui en France. C'est donc bien malade parce que je m'attendais. Moi, je pensais au parti politique qu'on avait ici au Québec. Waouh, OK.
Ben, c'est parce que le parti d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, le Parti Renaissance, est en difficulté en France. Ça va pas bien. Je dirais que c'est à peu près à l'image de la coalition Avenir Québec ici au Québec.
Okay.
Le terrain est miné d'embûches et ils sont face à des critiques très virulente. Donc, d'aller se refaire une image à l'international, c'est une posture qui est parfois adoptée par des chefs d'État. Donc, Pierre-Éliott Trudeau, père, l'avait utilisé quand ça allait moins bien ici. Il allait redorer son image à l'international. Puis on finissait par se dire, bien, finalement, il est apprécié partout dans le monde. Il doit être pas si pire que ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Emmanuel Macron multiplie ses visites à l'international. Il est apprécié. Il est accueilli à bras ouverts partout. Et Gabriel Attal, en venant ici, bien, ça permet aussi là, d'aller redorer l'image du Parti Renaissance en France. Mais bon, c'est sûr que, étant donné que la coalition Avenir Québec ici a aussi des difficultés, bien, il y a une belle opportunité pour la CAQ d'aller saisir des occasions de renforcer les accords commerciaux, par exemple, de renforcer des partenariats. Là, on va le voir ce matin sur la langue française. Donc, c'est une belle occasion pour les deux partis en difficulté, mais qui sont au pouvoir dans les deux États, tirer profit de cette rencontre-là avec des réalisations concrètes puis nous présenter des projets concrets.
Et là, Attal a fait une belle passe sur la palette au ministre Simon-Jolin Barrette en parlant pour la laïcité de l'État, parce que Simon-Jolin Barrette était sorti dans la journée en disant au fédéral « Mêlez-vous de vos affaires, la loi sur la laïcité, ça nous appartient ». Donc, il y a tout ce climat-là aussi qui est positif pour la CAQ.
Oui, tout à fait, parce qu'on vient aborder des thèmes chers à la CAQ, les thèmes de la laïcité, qui est une condition fondamentale pour la liberté, selon Gabriel Attal, et ça a été chaudement bien accueilli. La protection de la langue française aussi fait partie là, des dossiers qui ont été abordés dans son discours hier à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal qui a fait une longue allocution là, de un peu plus de 20 minutes dans laquelle il aborde des enjeux qui sont chers à la CAQ, dans ce qu'elle est identitairement, qu'on voit moins dans son deuxième mandat, mais qu'il l'avait défini en 2018 lors de son élection, c'est-à-dire les enjeux de laïcité, l'importance de sortir la religion de l'État. D'ailleurs, Simon-Jolin Barrette disait « on ne l'a pas fait à la hauteur », ou François Legault, plutôt dans son allocution, disait « on ne l'a pas fait à la hauteur où la loi 21, la loi sur la laïcité au Québec, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait aimé, mais on est arrivé à un compromis, on n'est pas allé aussi loin que la France, mais on s'inspire beaucoup de la France pour finalement s'assurer qu'on a un État laïque. »
Tu as pensé quoi, d'ailleurs, du discours du premier ministre français hier?
C'était très, très intéressant, très inspirant de voir la consistance du discours.
OK.
J'avais l'impression d'avoir un autre niveau de discours, un niveau avec des termes recherchés, avec de la consistance dans le contenu.
Faudrait prendre des notes, c'est ça que tu es en train de dire.
Tout à fait. Je me disais, on rehausse les attentes, on rehausse le niveau de langage, de vocabulaire, des aspects qui ont été touchés, la façon de présenter ces idées-là.
L'émotion dans la voix, puis tout. Hein?
Exactement, oui. Donc, très consistant, très riche, très inspirant. On voit qu'on a affaire à un chef d'État ou à un premier ministre qui a de l'envergure, qui a de la consistance, qui possède bien l'histoire aussi et qui est capable de transmettre des messages, plusieurs messages dans ce discours-là.
À 35 ans, il représente certainement la jeunesse. D'ailleurs, il en a parlé beaucoup dans son discours hier. Penses-tu qu'ici au Québec, ça peut inspirer des jeunes à dire « Hey, oui, la politique, c'est faite pour moi? »
Bien, il faudrait qu'il reste plus longtemps ou qu'il vienne plus souvent. Parce que c'est un court passage au Canada. Hein? Il reste 3 jours. Donc, hier, avant-hier et aujourd'hui, c'est sa dernière journée. Oui, je pense que ça peut inspirer. Mais c'est sûr que j'espère surtout que ça va inspirer nos politiciens à rehausser leur niveau de langage, la consistance de leur discours, de leurs allocutions, de la façon dont ils s'expriment vraiment. Parce que c'est dans cette richesse de notre langue française qu'on trouve les nuances, les subtilités, les précisions. Et ça, bien, habituellement, les Français l'ont maîtrisent très, très bien le vocabulaire dans leur capacité à aller plus en détail. Et bien, en politique, tout est une question de nuances et de savoir distinguer les complexités. Alors, je souhaite que ça inspire d'abord et avant tout nos politiciens actuels.
Jean-Saint-Ève, tu disais que la visite du premier ministre français est à l'avantage quand même de la CAQ. Je pense que c'est à l'avantage aussi des libéraux au fédéral. La relation qu'on voit de chumé-chumé entre notre premier ministre et le premier ministre français, on se tutoie, on s'appelle même par son petit nom, là, Justin et Gabriel. Comment tu vois cette relation-là et comment ça se passe, sa visite du côté fédéral?
Ben oui, tu as bien raison. Du côté fédéral, c'est certain que c'est parfait pour Justin Trudeau, qui a besoin d'améliorer son image pour les Canadiens, puis d'avoir des relations très, très cordiales avec des partenaires d'envergure. C'est bon pour son image, c'est bon pour le Canada. Donc, mutuellement, ils ont tout intérêt à démontrer qu'ils sont capables d'une grande cordialité. Mais est-ce que ça va se traduire par autre chose que des relations publiques, par autre chose que des belles photos? Moi, c'est ce que je pense qu'on doit surveiller, là, parce qu'au-delà de ce rapport très fraternel, très amical entre nos deux, entre Justin Trudeau et Gabriel Attal, qu'est-ce qu'on va en sortir? Qu'est-ce qu'on va en tirer de ça? Est-ce qu'on aura des annonces qui vont être faites sur... ou est-ce qu'on aura éventuellement des ententes ou une augmentation des échanges commerciaux, par exemple? Mm-hmm. Ça va être intéressant à surveiller.
Oui, parce qu'en raison de la crise de l'agriculture là-bas en France, bien, il y a le Sénat qui a voté contre un accord économique là, européen-Canada, qui fait en sorte que là, il y a du sable dans l'engrenage économique là, entre nous et l'Union européenne.
Oui, cette fameuse entente qu'on entend parler, le CETA, qui est une entente qui a été finalement établie entre le Canada et l'Union européenne. Elle est en vigueur, cette entente-là, depuis 2017, depuis septembre 2017, mais elle doit être ratifiée par les 27 États membres de l'Union européenne pour qu'elle s'applique dans son entièreté. Mais pour l'instant, il y a 90 % de cet accord-là qui est de compétence complètement européenne, donc qui s'applique déjà. Donc, pour aller chercher le 10 % restant de cette entente-là, bien, l'entente doit être ratifiée par au moins 2/3 des 27 États membres. Il y a 17 États membres qui ont ratifié l'accord pour le moment. Et là, bien, ça me dans l'engrenage. Je fais une grosse introduction, pour qu'on comprenne là, que finalement, quand le Sénat français s'oppose à sa ratification, ça ne menace pas l'adoption de l'entente puisqu'elle est déjà ratifiée par 17 États sur 27. Donc, elle doit être ratifiée par le 2/3 des États. Mais c'est sûr que ça crée une polémique et c'est plus une situation très politique interne pour la France. C'est très embarrassant pour la France qui souhaite développer le Parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, souhaite ratifier cette entente-là, mais là, elle est bloquée par le Sénat qui ne veut pas le Sénat qui, et d'ailleurs, c'est la gauche et la droite, fait quand même très particulier, là. Donc, la gauche et la droite qui se sont unies au Sénat pour dire on ne ratifiera pas cette entente. Bref, c'est du sable dans l'engrenage, mais c'est plus sur le plan politique interne de la France. En ce qui concerne nos échanges, ça ne change rien.
Jacinthe-Ève, sortons un petit peu de la visite du premier ministre français. Parlons du ministre Christian Dubé qui a promis dès lundi un rôle plus accru pour les super infirmières. Penses-tu que tout est attaché? Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Et est-ce que tout est attaché pour déjà lancer cette idée-là?
Bien, les super infirmières qui ont... Qui... On les appelle comme ça là, dans le langage courant, là, mais je veux préciser que leur titre exact, c'est des infirmières praticiennes spécialisées, des IPS qu'elles utilisent.
Ouais.
Et puis, ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'elles l'espèrent, les infirmières praticiennes spécialisées, parce que c'est une longue formation, c'est une formation de 5 ans. Hein, et elles souvent sont prises dans un carcan au Québec où elles doivent attendre que les médecins acceptent de déléguer certains actes. Elles ont plus de marge de manœuvre qu'une infirmière traditionnelle. Par contre, ça prenait toujours l'autorisation des médecins. Donc là, avec l'intervention de Christian Dubé, de leur donner plus de pouvoir ou plus un champ d'action plus large, oui, c'est intéressant. Il faut aller vers ça. Est-ce que tout a été attaché? J'ai l'impression que oui. Et il y a une grande volonté de la part du Collège des médecins d'aller de l'avant avec ça. Ça serait mal vu de ne pas aller de l'avant de toute façon parce qu'en Ontario, les infirmières praticiennes spécialisées, ailleurs, elles ont déjà une grande autonomie. Alors, on ne peut pas aller à contre-courant. Ouais. Mais on va voir comment ça se passe. Mais je suis très, très confiante. C'est une très bonne nouvelle et on peut en faire plus encore. Hein. On n'est pas allé aussi loin qu'on pourrait aller encore.
Je pense qu'il faut en faire plus
ben
aussi.
Oui,
hein.
Ben oui, ben oui.
Marche par marche. On fonctionne comme ça au Québec. En terminant, j'aimerais t'entendre sur Paul Saint-Pierre-Plamondon et le troisième lien. Est-ce que c'est électoraliste, sa position, ou c'est une position de bon gestionnaire de dire « Hey, moi, je t'arrive au pouvoir dans 2 ans, puis que le troisième lien, il est en branle, ben je le stopperai pas, il va continuer. »
Je pense pas que c'est électoraliste. C'est responsable de sa part de s'en remettre à la Caisse de dépôt et de placement dans un premier temps pour évaluer la situation puis faire ses propositions. Mais c'est certain que le message commence à être confus. Paul Saint-Pierre-Plamondon est toujours clair dans ses messages, mais là, cette ambivalence-là, ouais. Même moi, à un moment donné, je me suis mis à relire les articles, là, relire, mais voyons, qui dit vrai? Parce que là, on a mal interprété, le titre de journal ne dit pas la bonne chose. Est-ce qu'il est
pour, parce
est-ce
que les journaux disaient complètement différent.
Oui.
Dans le journal de Québec, on mentionnait Paul Saint-Pierre-Plamondon est ouvert à un troisième lien, puis sur Radio-Can, c'est Paul Saint-Pierre-Plamondon ferme la porte au troisième lien. Fait que là, c'est sûr qu'il y a ambiguïté dans son message.
Oui. Puis là, lui, sur les réseaux sociaux, faisait des publications. C'est pas vrai, là. Je vois, attends, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai? T'es-tu pour ou t'es contre? Mais clairement, il y a une position plus prudente, parce ouais. que souvent, c'est ça. Quand c'est pas clair, c'est parce qu'on est plus prudent, puis c'est plus électoraliste aussi d'être plus prudent puis d'être moins clair.
Pas trop se mouiller quand même, là, à ce moment-ci. Il n'y a pas besoin de se mouiller à ce point-là. Hein?
Non, exactement. On est encore loin des élections. Puis la Caisse de dépôt et de placement, de toute façon, va faire sa proposition. Donc, c'est tout à fait responsable de garder une approche prudente. Mais quand même, les gens qui sont réellement, qui croient à l'importance d'avoir un lien périphérique, un lien à l'est, pour ceinturer la ville comme partout ailleurs dans le monde où les villes, pour la fluidité de la circulation, il y a une ceinture qui permet de faire le tour de la ville. Quiconque croit à ça n'adhérera pas à un message mitigé ou un message qui est moins clair. Donc, il doit garder ça quand même en tête, là, parce que dans 2 ans ou dans 1 an, on lui rappellera ce qu'il a dit à ce sujet-là. Donc, s'il a dit, ouais, ben et que son approche n'est pas franche, ben, il va peut-être perdre l'appui des gens qui croient à l'importance d'en avoir un.
Jacinthe Averelle, notre chroniqueuse politique. Le budget fédéral est présenté mardi prochain?
Oui, en plein ça.
T'as-tu un petit lousse mercredi
Certainement.
Matin? Yes, OK. C'est un rendez-vous. Tu seras avec nous mercredi matin pour revenir sur la présentation du budget fédéral.
On va voir la grosseur de la dette et du déficit qui nous attend.
Elle sera pas petite.
Comment ça? Il y a eu beaucoup d'annonces? J'ai pas remarqué.
Ouais. Hey, restez là, OK? Après la pause, vous ne voulez pas manquer ça. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours lorsque on a besoin, ça m'est jamais arrivé, de faire appel à notre avocat de la défense? Ça veut dire qu'on a fait quelque chose probablement de pas correct. On a créé...
Ou tu l'as pas fait.
Ou peut-être tu l'as pas fait non plus, mais tu as besoin d'aide dans cette situation-là. On a créé un scénario de braquage de banque qui vire mal pour Jeff, Max et moi.
Ouais.
Et on va appeler notre avocat de la défense, ouf, le maître métal, Didier Sanson. Manquez pas ça, c'est autour de 8h15. On va vous présenter ce scénario-là et maître métal va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, dire ou pas dire à la police et c'est quoi la suite des choses. Bougez pas, vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102.1. Bon vendredi. Rage.